Encore un réveillon sous Covid. Parfois, on se sent enfermé dans un jour sans fin, comme dans ce film avec Bill Murray. Alors, vous vous souvenez peut-être de la Saint-Sylvestre l'an dernier, sous couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Le Conseil de défense cet après-midi devrait dire si couvre-feu il y a à nouveau et plus largement quelles mesures vont être mises en place pour lutter contre le coronavirus et la propagation galopante liée notamment au variant Omicron. 70 000 contaminations par jour en moyenne sur une semaine. Sommes-nous condamnés à voir se répéter les vagues de Covid avec des mutations sans fin du virus qui nous gâchent la vie? On en parle avec notre invité, le virologue Bruno Canard, chercheur au CNRS, spécialiste des variants. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Alors Bruno Canard, le gouvernement examine cet après-midi plusieurs mesures possibles. Un couvre-feu, le retour du masque, la rentrée scolaire repoussée. On a dit déjà sur France Inter que cette option était écartée. La fermeture de certains lieux culturels. C'est quoi, d'après vous, l'arme fatale contre la Covid et ses variants, et son variant Omicron?
Alors, je pense que le problème principal qu'on rencontre, c'est la circulation élevée du virus. Et donc, toute mesure qui va tendre à faire diminuer cette circulation sera effectivement une bonne mesure. Le problème, c'est l'acceptabilité par les gens, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir réellement arriver à ça? Ça a un coût sociétal. Personne n'a envie de se restreindre, surtout en ces fins d'année, d'ailleurs. Mais tant que la circulation du virus reste élevée, il y aura toujours un approvisionnement et une fabrication de variants, surtout que le virus rencontre des systèmes immunitaires qui sont petit à petit éduqués à le combattre.
Est-ce que limiter la circulation des personnes, ça fait partie des réponses? Il y a eu des milliers de vols aériens annulés ce week-end, alors c'était plutôt lié en fait à la pénurie de personnel, mais les restrictions aux frontières notamment, ça fait partie de la limitation, des limitations qui peuvent être efficaces?
Je pense qu'il y a, deux choses dans cette limitation de circulation. La première, c'est obtenir un délai pour pouvoir s'organiser en début d'épidémie, quand il y a un nouveau variant qui arrive, en particulier l'Omicron qui est justement beaucoup plus contagieux, et ensuite les perturbations que ça engendre, en particulier sur la circulation des informations, la capacité de toutes les sociétés à travailler et à s'organiser, et en particulier contre l'épidémie. Donc d'un côté, restreindre la circulation peut faire gagner quelques jours, mais en fait c'est assez illusoire, et surtout ça peut gêner beaucoup l'organisation, en particulier je pense à l'Afrique du Sud qui a donné des résultats clés pour le monde entier.
C'est le pays où il a été identifié, Omicron, en fait.
Pardon ?
C'est le pays où Omicron a été identifié.
Voilà, c'est ça. Et en particulier, de restreindre les échanges de matériel, les trajets, enfin tous les avions, etc., fait que la recherche est aussi empêtrée et empêchée, et donc se ralentit. Donc c'est une mesure qui est intéressante transitoirement sur quelques jours, et ensuite effectivement de toute façon, comme on l'avait prévu, à partir du moment où on détecte un variant contagieux, c'est sûr qu'il est déjà beaucoup plus étendu que ce qu'on pense.
On a l'impression, Bruno Canard, qu'à chaque nouveau variant signalé du coronavirus, le virus est plus contagieux. Est-ce que c'est inévitable?
Alors, l'évolution et la sélection fait que c'est une des données qui est sélectionnée. C'est tant qu'il y a un potentiel d'augmentation de la contagiosité, forcément, c'est sélectionné, puisque seuls ces virus ont un avantage sélectif et petit à petit, ils déplacent les autres. Alors, heureusement, ça ne va pas de pair avec pathogénicité et gravité de la maladie.
Ouais. Voilà. Donc finalement, on peut espérer, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, Bruno Canard, on peut espérer qu'un variant contagieux élimine l'autre et que Omicron, qui est peut-être un peu moins dangereux, écrase Delta, qui est encore majoritaire dans les hospitalisations.
Oui, d'ailleurs c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, puisque je pense qu'il est à peu près clair que la pathogénicité et la dangerosité de Omicron est moindre que celle du Delta par exemple. Alors avec effectivement tout ça, quand on dit ça, c'est juste une part du problème, parce que si il est comme ça, c'est que effectivement il se heurte à une immunité qui a été créée par le Delta et par d'autres avant. Donc les causes sont multiples et complexes, mais le fait est que à l'heure actuelle, Omicron est moins dangereux et a une contagiosité plus élevée.
À ce propos, Frédéric nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Frédéric. Frédéric est-il avec nous? Bonjour Frédéric.
Ah. Allô?
Oui, Frédéric, bonjour. Oui. Est-ce que c'est vous?
Ben
vous
écoutez,
êtes en direct sur France Inter.
En tout cas, je suis un Frédéric. Écoutez, voilà. Moi, je suis un petit peu étonné parce qu'il y a un vent de panique qui souffle là, alors que visiblement, le variant Omicron n'est pas simplement moins dangereux que le Delta. Visiblement, il apparaît très, très peu dangereux. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je ne vois pas pourquoi on voudrait forcer les gens à se vacciner contre un virus qui est en fin de compte très gentil, d'autant plus que le vaccin s'avère à chaque jour moins efficace et ce qu'on ne dit pas avec beaucoup d'effets secondaires. Tandis que...
Ça, c'est votre position, Frédéric.
Oui, mais écoutez, renseignez-vous. Ça n'empêche pas qu'on ait besoin de vacciner certains, hein, les plus fragiles. Je ne suis pas du tout opposé. Mais enfin, c'est un constat. Et puis, il y a un autre constat. C'est qu'on nous parle d'hôpital, on nous parle d'urgence, on nous parle de nous tester, on nous parle de nous isoler. Mais depuis 2 ans, les médecins sont interdits de soigner. Est-ce qu'enfin, on va pouvoir soigner avec des traitements qui existent et qui sont efficaces?
Qu'est-ce que vous entendez par interdit de soigner? Vous pensez qu'on empêche les médecins d'utiliser des traitements?
Écoutez, l'ivermectine est interdite. L'hydroxychloroquine ne peut être utilisée que
Frédéric...
au AMM. Et la vitamine D, qui est un médicament formidable pour les plus anciens, qui s'oppose aux effets de la protéine spike, elle n'est pas vantée comme elle devrait l'être.
Alors Frédéric, l'ivermectine, pour l'instant, les études scientifiques ont prouvé que c'était un traitement qui n'était pas forcément efficace.
En tout cas, on va en parler avec Bruno Canard, on va poser
la question d'abord peut-être sur ce variant Omicron qui est peu dangereux. Est-ce que finalement, Bruno Canard, ce que je comprends de la question de Frédéric, c'est est-ce qu'il ne faut pas souhaiter sa diffusion puisqu'il est moins dangereux que les autres souches?
Alors, comme tous les problèmes, les interprétations sont multiples. Et effectivement, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une population qui a été exposée déjà à d'autres formes de la Covid, du virus, qui a été vaccinée, effectivement, Omicron arrive et ne fait pas les dégâts qu'il aurait pu faire probablement s'il était arrivé en fin 2019, comme un premier SARS numéro 2. Voilà. Donc, effectivement, il arrive dans un contexte temporel, maintenant et immunologique, qui fait que il ne crée pas la vague. Il remplit des hospitalisations, ça c'est vrai, mais il n'a pas une vague de gens qui vont en réanimation.
Et est-ce qu'il signe pas la fin de l'épidémie?
Je suis pas à l'hôpital, c'est ce que je lis et ce que je vois des données qui sont dans les publications.
Est-ce qu'il signe pas la fin de l'épidémie? Parce que parfois les épidémies se terminent comme ça, avec des virus qui sont moins graves et plus contagieux.
Alors, donc là, c'est. Je vais pas dire qu'il signe la fin de l'épidémie, mais ça pourrait une probabilité que l'épidémie se termine comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un variant qui se diffuse très largement et qui ensuite profite de l'immunité qui a été créée par les variants précédents et la vaccination et qui finalement se heurte à un mur immunologique et disparaisse. Vous vous rappelez dans l'épisode de H1N1 qu'il y a eu il y a quelques années, le virus a été absolument très contagieux. On s'est aperçu a posteriori qu'il s'était diffusé extrêmement rapidement sur la planète, mais sans créer de vagues de décès et d'hospitalisation, comme au départ il aurait pu le faire. Donc c'est comme si ce H1N1 était arrivé nous montrer ce qui allait être la fin de l'épidémie du Covid, mais le problème, c'est on ne sait pas encore. Là, il faudrait une boule de cristal de savoir s'il y a encore une possibilité d'avoir des variants qui créent justement cet échappement immunologique, qui arrive à éviter la vaccination, les anticorps, et qui peut ensuite, en frappant des populations qui sont ni vaccinées ou fragiles, puissent faire des dégâts.
Bruno Canard, Frédéric posait la question des traitements. Est-ce que les traitements sont efficaces et est-ce qu'ils sont efficaces contre les variants, notamment Omicron?
Donc les traitements qui existent, qui ont été approuvés, et donc quand ils sont approuvés, c'est que effectivement c'est des études qui ont été faites des études cliniques qui ont été validées par une communauté scientifique montrent que la pilule de Pfizer a un avenir intéressant devant elle, quoique l'échantillon était encore petit. Il faut voir quels vont être les effets potentiels si on l'utilise en masse. Le remdesivir, lui, il est oublié. Le molnupiravir, effectivement, il a d'autres problèmes. En ce qui concerne l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, c'est des débats sans fin avec des effets qui sont borderline, si disons, qui sont assez peu définis et qui ont fait l'objet de multiples études cliniques qui n'ont pas conclu. Donc après, on peut interpréter, être partisan d'une chose ou d'une autre, mais scientifiquement, les effets n'ont pas été démontrés comme concluants.
Chantal nous appelle du Rhône. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Monsieur Cana.
Merci de prendre ma question. Voilà, je voudrais, je désire comprendre pourquoi alors qu'il y a justement de plus en plus de personnes vaccinées, on en est déjà à la troisième dose, il y a tant de personnes atteintes du Covid. Est-ce un problème d'adaptabilité des vaccins? Et du coup, ne faudrait-il pas envisager d'autres recherches et donc d'autres moyens de soins?
Bruno Canard. Oui,
c'est une très bonne question, car nous avons une inconnue encore, qui est assez mal définie, qui a besoin d'avoir davantage de recherches. C'est quelle est la production virale, en intensité, en quantité, et des personnes qui sont déjà vaccinées ou qui ont eu déjà un Covid et qui vont avoir un autre Covid avec le variant Omicron. On ne sait pas exactement comment le virus circule, quelle est la contagiosité des gens qui ont déjà été vaccinés. Voilà, tout ça, effectivement, c'est une inconnue qui reste. On ne sait pas comment le virus, quelle est l'intensité de la production virale et de sa circulation à l'heure actuelle. Donc, on navigue encore à vue. Petit à petit, on sait que Omicron, est beaucoup plus contagieux, ce qui était au départ attendu en regardant les mutations de la Spike, observé en Afrique du Sud et ensuite confirmé avec sa diffusion actuelle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment la production de virus et sa circulation est faite dans une population qui a déjà été exposée, déjà été vaccinée. Et donc c'est difficile, il est difficile de prévoir la trajectoire de l'épidémie à l'heure actuelle. Sauf que effectivement, Omicron va très certainement s'établir et infecter une quantité extrêmement importante de gens vaccinés ou pas.
À vous écouter, Bruno Canard, on manque un peu de données. En fait, est-ce qu'il y a un problème de séquençage en France, notamment? C'est-à-dire qu'on identifie mal les variants qui sont concernés par les contaminations.
Oui, c'est un problème. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de séquençage qui se fait, enfin, moins que chez nos collègues britanniques, qui sont vraiment à la pointe de cette technique. Et il y a un problème aussi de remontée des données de séquençage et de partage entre les différents centres. Voilà, c'est un peu plus difficile. Ça se met en route. Ça a un peu traîné au début. Traditionnellement, la France n'est pas un pays qui avait habitude scientifique de faire vraiment des suivis de séquençage, comme les Anglais l'ont fait depuis historiquement, ceux qui ont inventé les techniques de séquençage. Voilà. Donc oui, il y a eu, on est un petit peu à la traîne sur ce côté-là.
En un mot, Bruno Canard, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que finalement, sachant ce qu'on sait, c'est-à-dire sur l'échappement éventuellement immunologique, est-ce qu'il faut continuer à vacciner malgré tout, même si ça peut créer aussi favoriser l'apparition de variants?
Alors, de toute façon, que ça soit l'infection naturelle avec des anticorps ou la protection avec des vaccins, la création de variants est inévitable puisque c'est l'immunité qui est le moteur, l'immunité qu'elle vienne du vaccin ou des anticorps naturels, qui est le moteur de l'évolution. Donc, la stratégie de base, c'est tester, tracer, isoler d'une part, limiter par les gestes barrières la circulation du virus. Et ensuite protéger les personnes fragiles. On sait, on a la chance de savoir si même la vaccination ne permet pas l'arrêt de la circulation du virus, on sait que la vaccination empêche les cas graves. Eh bien, prenons ça, protégeons les gens fragiles et ensuite on verra.
Merci Bruno Canard, virologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des variants. Merci à vous de nous avoir répondu sur France Inter.